Je voudrais parler de cet être intérieur dont la Bible nous parle. Et c'est cet être intérieur-là qui a besoin de restauration. C'est imaginer un château, un palais magnifique, mais qui est à l'abandon. Et au fur et à mesure que le temps passe, il ne va plus être à l'abandon, dans ce sens qu'il va être habité par d'autres habitants, mais qui n'étaient pas ceux d'origine. Vous êtes d'accord? Il va y avoir des plantes, il va y avoir des bêtes sauvages peut-être, il va y avoir peut-être des rats, toutes sortes d'animaux, des oiseaux. Mais à la base, ce palais, il était conçu pour faire habiter le roi. Et on voit tout de suite que si on laisse le palais à l'abandon, si on ne le restaure pas, eh bien, il va manquer le but pour lequel il a été conçu. Et l'âme, c'est exactement, l'être intérieur du moins, c'est le même principe. Et quand il est dit qu'elle restaure l'âme, alors ce n'est pas du tout cette notion de restaurer comme le restaurant nous restaure. Ça n'a rien à voir. C'est faire revenir, restaurer dans le sens réhabiliter. Dans le texte hébreu, c'est vraiment faire revenir l'être comme il était. Donc c'est cette restauration, réhabilitation de l'âme. L'âme a besoin de réhabilitation, a besoin de restauration, parce que si elle n'est pas réhabilitée, elle manque le but. Pourquoi l'âme a besoin d'être restaurée? Parce qu'elle est, à cause d'un certain péché, elle est sous la loi, sous une loi qui n'est pas la loi de la liberté justement. On a vu que la loi parfaite qui restaure l'âme, c'est la loi de la liberté, et l'âme, par nature de l'homme, n'est pas sous cette loi-là. Alors que Dieu l'avait créée pour être sous la loi de la liberté. Mais elle n'est pas sous cette. Au lieu d'être sous la loi de la liberté, elle est sous une loi que j'appellerais, à l'inverse de la liberté, une loi d'obligation. Une loi, quelqu'un dit, d'esclavage aussi, dans le même principe. Mais c'est quelque chose qui ne dépend pas de notre volonté. Vous êtes d'accord, quand on est esclave, quand on est sous une obligation de faire quelque chose, ça ne dépend pas de notre volonté. On a beau vouloir ou pas vouloir faire la chose, c'est une obligation, donc on est forcé. Et je vais vous donner quelques exemples, tout simplement, de lois d'obligation que l'on rencontre tous les jours. Première loi d'obligation, la loi gravitationnelle. Si je prends ma Bible et que je la jette, je ne vais pas le faire, ne vous inquiétez pas, mais par ma seule volonté, je ne peux pas arrêter ma Bible en suspens. Vous êtes d'accord? Parce que la loi gravitationnelle est là, fait qu'elle va tomber par terre. Donc ce n'est pas quelque chose que je peux contrôler par ma volonté. Les lois mathématiques, je ne vais pas vous en citer beaucoup, je vais vous en citer une que je maîtrise à peu près. 1 plus 1 égale 2. On aimerait que 1 plus 1 égale 1000, ça nous arrangerait ça dans nos comptes. Mais ça ne marche pas comme ça. Et notre volonté, même si on voudrait que 1 plus 1 égale 1000, et même j'ai appris en faisant les études mathématiques que des fois 1 plus 1, ça ne fait pas 2 forcément. Mais c'est un autre débat, ça. 1 plus 1 des fois égale 0. Oui, ça arrive. Mais bon, pour nous, on sait qu'1 plus 1 égale 2, et que qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, c'est comme ça. D'autres lois, et toutes les lois des sens, les sentiments, toutes ces choses-là, que le fait que quand je regarde quelque chose, je le vois, quand j'entends quelque chose, je l'entends, ça ne dépend pas de ma volonté, c'est des choses qui sont comme ça. Tous nos sens sont ainsi faits de telle manière qu'on n'a pas de contrôle directement sur nos sens. Vous êtes d'accord? On ne peut pas contrôler directement nos sens. Par contre, on peut être amené à savoir qu'est-ce qui va produire tel sentiment. Ça, c'est autre chose. Mais contrôler le sentiment lui-même, c'est-à-dire, allez, maintenant il faut que j'ai faim. Par contre, vous mettez un bon plat devant, avec la bonne odeur qui vient titiller mes narines, là je vais avoir le sentiment de faim. Mais volontairement, est-ce que je peux faire naître en moi le sentiment de faim par le seul effort de ma volonté? Vous êtes d'accord que je ne peux pas? C'est une loi d'obligation, c'est quelque chose qui est obligé d'arriver. La loi temporelle, le fait que le temps passe, c'est une loi obligatoire. Je ne peux pas, moi, je n'ai pas le pouvoir. Dieu, lui, il a le pouvoir d'arrêter le temps. Il a fait arrêter même la course du soleil. Mais moi, je n'ai pas le pouvoir d'arrêter le temps. Et merci Seigneur que je n'ai pas ce pouvoir-là. Parce que Dieu sait ce que les hommes pourraient faire avec ce pouvoir-là. Le temps passe et c'est hors du contrôle de la volonté de l'homme. Toutes ces lois que j'ai citées, il y en a beaucoup d'autres, je ne vais pas prendre le temps de toutes les citer parce qu'il faudrait un long moment, mais il y a beaucoup de lois d'obligation, des lois qui sont obligées d'arriver, qui ne dépendent pas de ma volonté. Mais ces lois concernent beaucoup, et la plupart concernent soit le monde extérieur en lui-même, soit ce qui touche notre âme, mais du point de vue extérieur. Donc comme ce dont j'ai parlé, les sentiments, les pensées même, toutes ces choses, elles sont touchées, elles touchent le monde extérieur directement. Donc elles sont soumises à cette loi d'obligation, et elles sont naturelles, elles sont bonnes en soi, voilà, il n'y a pas de mal dans ces lois. Vous êtes d'accord? Ce n'est pas des lois mauvaises. Par contre, là où c'est pas bien, là où c'est mauvais, c'est que l'esprit qui est dans le cœur de l'homme, cette portion intérieure de l'homme, si elle est soumise à une loi d'obligation, alors elle passe à côté du but que Dieu a prévu pour elle. Et c'est tout le danger est là, toute la difficulté est là, c'est que le cœur de l'homme, il est soumis à une loi d'obligation. Alors que Dieu désire qu'il soit sous la loi de la liberté. Jésus a dit cette parole, « Quiconque se livre au péché est esclave du péché. » Le péché, c'est la loi d'obligation qui règne sur le cœur de l'homme. Et c'est ce qui fait que le cœur de l'homme a besoin de restauration. C'est ce qui fait que le cœur de l'homme a besoin de réhabilitation. C'est ce qui fait que le cœur de l'homme est ce qu'il est, avec tout le mal qu'il peut entraîner. Et on va lire dans Romains, cette attitude que l'apôtre Paul a bien décrite, Romains chapitre 7, le verset 15, on connaît bien ce passage, mais c'est bien de le relire ensemble. Romains chapitre 7, verset 15, « Car je ne sais pas ce que je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien, car je ne fais pas le bien que je veux, je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi, quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur, mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. » Voilà, le mot est donné, c'est la loi du péché, cette loi d'obligation qui est sur nous, qui est sur l'homme en général, qui pèse et qui fait que ça dénature totalement ce pour quoi l'homme a été fait. La loi du péché qui règne, une loi d'obligation, quelque chose qui ne dépend pas de notre volonté, ça règne sur nous. Et ça nous amène à passer à côté de ce que Dieu veut. Voilà pourquoi l'âme doit être restaurée. Mais comment concrètement on peut voir, comment avoir la preuve que notre âme a besoin de restauration? Comment avoir la preuve que le péché règne, que le péché est ce qui est notre maître finalement, qui est le maître de notre cœur? Eh bien, il y a plusieurs choses, je vais vous donner quelques-unes, plusieurs attitudes qui nous montrent que le péché règne dans un cœur. Par exemple, quand on est esclave de son regard, quand on tombe sur une affiche, par exemple, et Dieu sait qu'il y a de quoi, malheureusement, dans ce monde païen, sensualité, toutes sortes de choses, même la télévision, il y a de quoi tomber nos regards. Mais Dieu n'est pas contre le premier regard dans ce sens qu'il n'est pas voulu, mais je parle de l'esclavage du regard qui fait qu'on reste attaché. Combien de personnes ils tombent sur une affiche, par exemple, où il y a la sensualité, ils vont rester figés sur cette affiche. Vous êtes d'accord que le premier regard n'est pas péché? Le premier regard, ça va être la tentation, l'amorce de la convoitise. Mais le second regard, par contre, celui-là, il est volontaire. C'est à ce moment-là que la volonté devrait se mettre en marche pour dire « non, je refuse ». Mais quand on est esclave de son regard, c'est qu'on ne peut pas s'empêcher. Certains disent « Ah, je ne peux pas m'empêcher ». Mais il y a d'autres choses. Esclave des péchés, des pensées impures ou des pensées méchantes contre quelqu'un. On devient esclave. Et ces pensées qui viennent, qui surgissent en nous, au lieu de les bannir, au lieu de les chasser, au lieu de les faire fuir, on en est esclave. On les laisse demeurer en nous. On les laisse prendre possession de nos vies et on réagit en fonction de ces pensées. On est esclave de nos sentiments. Je l'ai dit tout à l'heure. Nos sentiments, ils ont cette particularité qu'ils peuvent nous tromper. Certaines fois, on croit voir quelque chose et en fait, on ne le croit pas. Il y a toutes sortes d'exemples. Il y a les mirages dans le désert qui font que des fois, on se trompe dans ce qu'on voit. Et les sentiments, on n'a pas à s'y fier. Il faut bien sûr en tenir compte, mais on n'a pas à en dépendre. On n'a pas à dépendre des sentiments. Les sentiments, ce n'est qu'un outil, je veux dire. Ce n'est qu'un outil qu'il faut apprendre, justement, à gérer. Et quand on est esclave de ces sentiments, par exemple, on a ce sentiment, j'aime pas telle personne, parce que j'ai pas d'affinité avec elle. Eh bien, parce que j'ai ce sentiment, est-ce que je vais me contenter de demeurer dans ce sentiment et de pas aimer la personne? Si c'est le cas, eh bien, je suis esclave de mes sentiments. Il y a toutes sortes de choses, esclave de mon imagination. Des fois, on se fait des films, on se fait toutes sortes d'images, de pensées. Moi, je dis ça et on se fait des films, carrément, dans notre tête. Avec un geste, on a l'impression que ça veut dire toutes sortes de choses. Des fois, certaines personnes interprètent un regard, interprètent une attitude comme toutes sortes de choses dans un contexte qui fait qu'elles vont croire que la personne leur en veut, etc. Il ne faut pas être esclave de ses sentiments. Quand on est esclave, de son imagination, quand on est esclave de cette chose, on a besoin de restauration. On peut être esclave de son orgueil, on peut être esclave de l'incrédulité. Toutes sortes de choses, et je ne vais pas non plus citer toutes les choses dont on peut être esclave. Et je vous laisse le soin, peut-être à chacun d'entre vous, de trouver la chose qui fait que vous êtes esclave. Mais ce que je voudrais aborder avec vous, c'est le danger de ne pas être restauré. Imaginez un instant comment serait le monde si j'avais le pouvoir de contrôler le temps, moi. Et que Jérémie avait le pouvoir de contrôler le temps aussi. Et que pendant le temps où je me trouve à manger au restaurant avec ma famille, donc j'ai envie que le moment dure, donc j'arrête le temps, à ce moment-là, lui se trouve chez son dentiste, en train de se faire arracher une dent. Vous voyez ? Il va y avoir une difficulté à un moment donné. Vous êtes d'accord ? Parce que je pense pas qu'il va vouloir arrêter le temps à ce moment-là pour en profiter. Lui va accélérer, moi je vais ralentir. Vous voyez, là il n'y a que deux personnes. Maintenant imaginez que le monde entier, chacun en particulier, il a sa télécommande temporelle. Imaginez la panique. Dans un endroit ça accélère, le feu passe au rouge, et à l'autre endroit il passe au rouge en même temps, ou au vert. Toutes sortes de choses, une catastrophe en moins de 2 minutes, il y a une catastrophe planétaire. Parce que le monde va se planter totalement, parce qu'il n'est pas fait, il n'est pas créé pour... Le temps est là, c'est une valeur sûre que personne ne peut influer dessus. Et après on se pose les questions, mais pourquoi le monde va si mal? Mais moi j'aimerais vous répondre simplement parce que le monde, les hommes en général, sont sous cette loi du péché qui est là, qui règne, et qui est complètement contraire à leur nature originelle, pour laquelle ils ont été créés. Et tous les hommes, ils vivent sous un poids du péché, donc ils vivent en étant esclaves de leurs sentiments, de leur orgueil, en étant esclaves de leur incrédulité, esclaves de leur regard, esclaves de toutes ces choses. Et ce qui fait que quand ils se fient à ces choses-là, ils décident certaines choses, mais en se fiant à ces choses-là, eh bien, ils se trompent totalement. Et ce qui est engendré par toutes ces choses, c'est le mal, c'est la catastrophe planétaire. Mais d'une façon plus cachée, d'une façon plus intérieure, et on se rend pas compte, et on croit que c'est dû à la volonté d'un Dieu qui est méchant, qui ne veut pas empêcher toutes ces choses, mais c'est l'homme lui-même qui fait que toutes ces choses sont ainsi. C'est l'homme lui-même, à cause du péché qui est dans son cœur, qui règne. Mais j'aimerais ne pas mettre sur les épaules de quelqu'un ce soir un poids de culpabilité, plus qu'il n'en faut. Il faut avoir bien sûr un peu de culpabilité, reconnaître qu'on est pécheur. Mais si on reconnaît qu'il y a un danger dans le fait de ne pas être restauré, on sait que notre Dieu, par le verset qu'on a lu, la loi de l'Éternel restaure l'âme, on sait que notre Dieu restaure l'âme. On sait que notre Dieu est capable de réhabiliter, de briser la loi du péché. Et comment il le fait? Eh bien c'est simple. Dieu, il utilise sa parole, il utilise sa puissance, pour nous faire connaître les deux simultanément, nous permettre de connaître cette loi parfaite. Mais la loi, et là c'est ma question, est-ce qu'elle est parfaite, la loi, par elle-même? Ça dépend laquelle, il y en a qui me disent. C'est vrai. La loi, dans ce sens, cette loi, ces préceptes, toutes ces directives qui me disent ce qu'il faut faire ou ce qu'il ne faut pas faire, est-ce qu'en elle-même, elle est bonne? On peut dire que oui, d'une certaine manière. Théoriquement, elle est bonne. Mais pour l'homme, on l'a lu, ce qu'elle produit, le fait de connaître le bien et le mal, d'avoir cette connaissance, ça fait qu'on a une... Il y a une rupture en nous, quelque chose comme ça. On a envie de bien faire parce qu'on connaît le bien, mais on se rend compte que dans notre corps, dans notre âme, c'est le mal qui règne. Et il y a quelque chose qui est là. On est une douleur qui est là du fait qu'on est séparé entre ce qu'on désire et ce qu'on fait réellement. Il y a quelque chose qui se passe, une séparation. Mais la loi, en elle-même, elle est parfaite. Et comment Dieu, il fait pour restaurer notre âme au travers de la loi? Eh bien, Dieu, vous savez ce qu'il a fait? Il a envoyé Jésus-Christ pour accomplir toute la loi. Jésus-Christ est venu sur la terre pour accomplir toute la loi. Il est dit que quand il est mort, il a prononcé cette parole juste avant de mourir. Tout est accompli. Tout est accompli. Donc, toute la loi est accomplie. Et pourquoi il a accompli toute la loi? De quelle manière? Il a été parfait dans tout ce qu'il a accompli, c'est-à-dire qu'il a été pur. Il n'a jamais péché. Il n'a jamais enfreint la loi une seule fois. Il n'a jamais fait quelque chose qui a pu attrister le Seigneur, le Père. C'est pour ça que Jésus, il a accompli la loi parfaitement. C'est pour ça que la loi est parfaite, parce qu'elle a été déjà accomplie parfaitement par quelqu'un. Et que nous, pauvres humains, ça aurait été impossible qu'on puisse l'accomplir. Mais Dieu ne s'est pas arrêté là. Il a donné à Jésus la punition, le châtiment que nous méritions, parce que nous ne pouvons pas, nous avions enfreint la loi, nous étions pécheurs, nous étions mauvais. Dieu a envoyé la punition, le châtiment sur Jésus, afin que lui prenne justement cette condamnation et que nous en soyons dispensés du moment que nous croyons en Jésus, simplement. Si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Et la loi devient parfaite par Jésus-Christ seulement. La loi devient parfaite par Jésus-Christ. Si nous essayons de faire la loi, de l'accomplir, ça ne sera jamais parfait parce qu'on n'est que des humains, on est limité. Mais la loi devient parfaite par Jésus-Christ, par l'œuvre de la croix, par le fait que celui qui était innocent a été fait péché par Dieu. Dieu l'a fait péché pour que nous devenions justice de Dieu, nous dit l'apôtre Paul. Pour que nous devenions justice de Dieu, tant et aussi longtemps que nous croyons en Jésus-Christ, tant et aussi longtemps que nous plaçons notre foi en Jésus-Christ, tant et aussi longtemps que nous nous cachions derrière Jésus-Christ. Et c'est pour ça que Dieu peut restaurer notre âme. Du moment qu'on croit en Jésus, en son œuvre parfaite, en le fait qu'il a pris sur lui la condamnation, c'est à ce moment-là que Dieu peut restaurer notre âme. C'est à ce moment-là qu'il nous donne aussi les outils pour pouvoir entretenir cela, c'est-à-dire la pratique et la prière. Ce que j'appelle la pratique, c'est quand je fais marcher ma volonté ou ma foi, quand je mets en œuvre ma foi. Et ce que j'appelle la foi, c'est la volonté plutôt, c'est la foi qui est mise en action. Parce que souvent on dit, oui, j'ai la foi, mais l'apôtre Jacques lui-même, il dit que la foi sans les œuvres, elle est morte. Mais la foi, elle se met en action, et c'est dans notre être intérieur, c'est la volonté. Quand je choisis de faire ce qui est bien, par la grâce de Dieu, je mets ma foi en action, et Dieu me bénit, Dieu me restaure, Dieu me réhabilite. Et il nous a donné aussi une autre chose, il nous a donné la prière, la communion avec Dieu. Je fais le choix de faire ce qui est bien, mais je sais que dans mon corps, il y a une loi du péché qui règne, mais je vais dans la prière et je vais dire à Seigneur, je dépends de toi, j'ai besoin de toi. Tu vois justement cette personne que je ne peux pas aimer, merci de me remplir de cet amour. Et parce qu'on est dépendant de Jésus, parce qu'on est dépendant de son esprit, parce qu'on est dépendant de sa parole, de toutes ces choses qui agissent dans nous, Dieu nous délivre, Dieu nous place sous la loi de la liberté. Et notre être a le pouvoir de choisir maintenant entre le bien et le mal. Notre être a le pouvoir de faire la différence, de faire la part des choses, parce qu'on est dépendant de la personne de Jésus-Christ, simplement. C'est tout. C'est comme ça que Dieu restaure l'âme d'un homme. C'est comme ça, de cette manière. Et les conséquences de cette restauration sont simples. Le péché nous dit Romains 6, verset 14, je le lis pour vous, « Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. » Et une autre, juste dans le verset 22 qui suit, « Mais maintenant vous êtes libérés du péché, et vous êtes devenus les serviteurs de Dieu. » Quand on est restauré, quand on est dans la présence du Seigneur et que notre âme est restaurée, on devient les serviteurs au service du Seigneur. Et c'est ça la vraie liberté. Ainsi, vous faites des actions qui plaisent à Dieu et le résultat, c'est la vie avec Dieu pour toujours ou la vie éternelle. Le résultat d'une âme restaurée, c'est la vie éternelle. C'est la certitude qu'après la mort, on pourra aller avec Jésus-Christ dans son ciel de gloire. Une autre conséquence, en effet, la loi de l'Esprit en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Ça ne veut pas forcément dire qu'on ne va pas mourir. Nous qui croyons en l'enlèvement de l'Église, nous croyons qu'un jour, certains chrétiens vont être enlevés. Mais peut-être que ça ne sera pas notre cas. Peut-être que ça sera notre cas. En tout cas, nous sommes libérés de la mort. En ce sens que la mort, on va peut-être la traverser, mais on sait qu'après on aura la vie éternelle. Et ça, c'est une certitude dans nos cœurs. Et comment cette certitude, elle vient? Justement parce que notre âme est restaurée, justement parce que le Saint-Esprit peut parler à nos cœurs, à nos consciences, et nous donner cette assurance que nous sommes les enfants de Dieu. Simplement parce que nous avons cru en Jésus-Christ. Et je finis par ce verset, Romains 8, verset 14. « Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. » Du moment que l'âme est restaurée, du moment que l'âme place sa foi en Jésus-Christ, alors on peut devenir fils de Dieu. À ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. À ceux qui ont reçu Jésus-Christ, qui ont cru en son œuvre à la croix, nous avons le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et cela ne vient pas de nous. Ce n'est pas par nos mérites, comme il a été dit. Ce n'est pas par nos richesses. Mais c'est simplement par la grâce, simplement par la foi de l'homme. Voilà comment une âme peut être restaurée. Voilà comment la loi de l'Éternel est parfaite. Elle est parfaite par Jésus-Christ, mais voilà comment elle restaure l'âme. Elle est parfaite. L'âme est restaurée quand elle place sa foi en Jésus-Christ, tout simplement. Frères et sœurs, ce soir, que nous puissions simplement laisser cette loi de la liberté régner en nous, que nous puissions plus être esclaves de quoi que ce soit qui nous oblige à faire quelque chose, si ce n'est Dieu qui est l'essence même de la liberté, lui. Dieu qui nous a donné cette loi de liberté pour que nous puissions en jouir sur cette terre, pour que nous puissions aller à l'encontre de tout ce qui se fait, de toutes ces personnes qui, justement, sont sous cette loi d'obligation, cette loi du péché, qui les amène à faire de mauvaises choses. Dieu nous a donné ce privilège d'avoir la liberté de choisir entre le bien et le mal. Que nous puissions faire le bon choix, simplement, ce soir. Merci, Seigneur, pour ta parole. Merci parce que, Seigneur, tu restaures nos âmes, Seigneur. Tu as restauré nos âmes un jour, mais tu continues à le faire jour après jour, Seigneur. Et nous voulons encore ce soir nous placer devant toi, afin que tu puisses, Seigneur, déposer une parole dans nos cœurs, Seigneur, de telle sorte que ce qui peut encore être là en nous et dominer sur nous puisse être anéanti, Seigneur, par cette loi de liberté que tu nous as donnée. Merci, Seigneur, parce que tu nous as affranchis, tu nous as rendus réellement libres, Seigneur. Et nous sommes réellement libres en devenant tes serviteurs, Seigneur. Nous sommes réellement libres en faisant ta volonté, Seigneur, parce que c'est cette volonté qui est bonne, agréable et parfaite, et que nous voulons faire dans nos vies, Seigneur. Merci parce que tu nous as donné cette liberté par Jésus, Seigneur. Nous voulons jamais oublier ce que tu as fait à la croix pour nous, Seigneur. Nous ne voulons jamais oublier le prix payé. Nous ne voulons jamais oublier la souffrance que tu as eue au moment où tu as été fait péché, au moment où Dieu a dû détourner son regard par amour pour nous, Seigneur. Tu as fait toutes ces choses, tu as enduré toutes ces choses. Tu as même connu la mort à cause de nous, Seigneur, pour que nous puissions marcher en toute liberté. Seigneur, merci pour ton Saint-Esprit, que tu réponds abondamment sur ceux qui croient. Et nous croyons, Seigneur, ce soir. Et nous croyons que là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté, justement. Voilà pourquoi nous te demandons encore de remplir les cœurs ce soir. Tu vois, ceux qui te connaissent déjà, merci de les remplir encore de ton Saint-Esprit et de toute la plénitude de ton Saint-Esprit, Seigneur. Tu vois, ceux qui ne te connaissent pas, merci de faire en sorte que dans leur âme, Seigneur, il puisse y avoir une restauration, qu'il puisse y avoir l'Esprit du Seigneur qui vienne convaincre de péché, de justice et de jugement, afin que leur âme soit réhabilitée, Seigneur, pour ta gloire. Et dans ton nom précieux, nous avons prié, et nous prions avec foi en celui qui libère, en celui qui délivre, en celui qui affranchit de tout mal, parce qu'il est tout puissant. Alléluia, gloire à ton nom, Jésus. Amen.